Vous êtes avec SBS French.
Les grands titres de ce mardi, les retombées se poursuivent après que la Chine ait tweeté une image modifiée représentant un soldat australien tentant de blesser un enfant afghan. Les températures devraient battre les records alors qu'une vague de chaleur continue d'affecter l'est de l'Australie. Ce 1er décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. En Australie d'abord, le ministre de l'immigration par intérim, Alan Tudge, a déclaré qu'il s'était entretenu avec des membres de la communauté australo-chinoise pour répondre à toute préoccupation avec l'escalade des tensions politiques entre l'Australie et la Chine. La Chine a refusé de s'excuser pour avoir publié une image modifiée sur Twitter montrant un soldat australien tenant un couteau ensanglanté à la gorge d'un enfant afghan. L'image a été publiée par le porte-parole des affaires étrangères de la Chine, Zhao Lijian, et évoque les résultats de l'enquête Brereton sur les crimes de guerre présumés commis par des soldats australiens en Afghanistan. Alan Tudge déclare qu'il a organisé hier une téléconférence avec un certain nombre de dirigeants communautaires sino-australiens à travers le pays, qui lui ont dit qu'ils étaient tous aussi consternés par la fausse image. Selon le ministre, une conférence à plus grande échelle aura lieu plus tard cette semaine.
That tweet represented the views of the Chinese Communist Party alone and does not represent the views of the 1.2 million Australians who have Chinese heritage. And those 1.2 million Australians are like anybody else. They're hard working, they're going about their business, raising their families and making an enormous contribution to our country. And certainly their tweet does not diminish our respect at all for the hard working Australians, no matter what their heritage is.
Et le député du Parti national, Barnaby Joyce, a déclaré que les actions du porte-parole des affaires étrangères, Zhao Lijian, en tweetant l'image modifiée, sont regrettables.
It's not the work of a smart diplomat. It's a work of a stupid high school student with an incredibly vindictive edge to it. Now, people such as Zhao Lijian, they serve their purpose. They think they're wolf warriors, but they're actually just a form of a Chinese rocket. They're incredibly colourful, short-lived. They go to great heights quickly and explode, never to be seen again.
Et puis des conditions de canicule sévères à extrêmes prévues et des dangers d'incendie dans le sud du Queensland, l'intérieur de la Nouvelle-Galles du Sud et le nord du Victoria ce mardi 1er décembre. Des interdictions totales d'allumer des feux ont été déclarées dans plusieurs zones des trois États. En Nouvelle-Galles du Sud, les interdictions d'allumer des feux couvrent le nord-ouest de l'État, les Northern Slopes, Lower Central West Plains, Central Ranges, Northern Riverina, Eastern Riverina et Southern Riverina. Dans le Victoria, des interdictions d'allumer des feux sont en place pour le Mallee et Wimmera. Dans le Queensland, des interdictions d'allumer des feux sont en place pour 8 zones, y compris Bundaberg, Fraser Coast, North et South Burnett, Cherbourg, Gympie, Sunshine Coast et Noosa. Dean Naramore du bureau de la météo a déclaré qu'un certain nombre de records de température devraient être battus.
Temperatures will soar into the mid to high 40s, with Bourke currently forecasting 48 degrees, Walgett and Birdsville 47. While bursts of heat and heat waves are normal for this time of year, what's making this burst of heat exceptional is temperatures up to 18 degrees above average and many locations breaking records.
Surf Life Saving Australia exhorte les Australiens à être vigilants autour des plages et des piscines lors de la première journée nationale de la sécurité aquatique. Le gouvernement fédéral appuie l'initiative visant à réduire le nombre de noyades en Australie. Entre juillet 2019 et juin 2020, il y a eu 248 décès par noyade en Australie, dont 45 sur les plages australiennes. George Shales, président de Surf Life Saving New South Wales, a déclaré déclaré que les sauveteurs avaient effectué 160 sauvetages dans l'État au cours du week-end dernier et qu'ils se préparaient pour une saison chargée.
Our drowning statistics are at 16 already this year, and that's way too high. So we would ask the public to ensure that they understand what their capabilities are before they head to the beaches across New South Wales. We have a lot of resources. We have 25,000 active lifesavers well prepared to assist, but our aim is on prevention. So we would ask you to take care when you're swimming at the beaches across New South Wales.
Le Queensland a rouvert la frontière aux voyageurs du Victoria et du Greater Sydney avec l'espoir de relancer un boom économique. On s'attend à ce que des milliers de personnes viennent dans le Sunshine State. Virgin Australia mettra plus de 100 000 places à la disposition des voyageurs des deux États avant Noël et le groupe Qantas a programmé 410 vols par semaine. Après 9 mois, l'Australie occidentale va rouvrir ses frontières à ceux qui voyagent venant du Victoria et de Nouvelle-Galles du Sud à partir de mardi prochain, 8 décembre, s'il n'y a pas une flambée de l'épidémie de COVID-19 dans ces deux États d'ici là. Les personnes de ces États ne seront pas tenues de se mettre en quarantaine pendant 14 jours, mais les voyageurs arrivant à l'aéroport et traversant la frontière seront soumis à des contrôles de santé. Le chef de WA, Mark McGowan, déclare qu'il se réserve la possibilité de refermer la frontière si nécessaire.
Western Australia, of all the states, will be the only one still with a controlled border in place. So you need to go through health screening, health checks. You need to put in place the G2G pass. It's not completely free movement. And what these measures mean is if we need to overnight scale up the border, we can do it in a matter of hours.
Ailleurs dans le monde, plusieurs attaques djihadistes contre la force française Barkhane au Mali, dans le nord du pays. Précision de David Bachet pour Radio France Internationale.
À Kidal, à Gao et à Menaka, les attaques ont toutes eu lieu entre 5h30 et 7h du matin. Aucune victime et très peu de dégâts matériels. Les tirs sont tombés à côté, partout ou presque. La force Barkhane évoque des tirs indirects qui n'ont fait aucun blessé. À Kidal, 2 obus sur 8 tirés ont touché la partie onusienne du camp que Barkhane partage avec la MINUSMA. Pas de précision sur l'ampleur des dommages. Des informations confirmées par plusieurs sources locales et onusiennes. Mais les acteurs sécuritaires et militaires présents au Mali relève surtout la coordination de ces attaques perçues comme un mauvais signal. Il n'a fallu que quelques heures au groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, affiliés à Al-Qaïda au Maghreb islamique, pour revendiquer ces tirs et pour citer nommément leur cible, l'armée française des croisés. Là encore, une revendication aussi immédiate n'est pas la norme, ce qui semble bien montrer l'intention, agresser, attaquer, mais surtout adresser un message à l'ennemi numéro 1 d'ACMI, la France, en tout cas dans le nord du Mali, puisque dans le centre, ce sont les forces de sécurité maliennes et les civils maliens qui chaque semaine sont visés, avec des bilans malheureusement bien plus importants.
Le chef de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Ghebreyesus, a salué la première baisse hebdomadaire des cas mondiaux de COVID-19 depuis septembre dernier. Selon lui, l'impact des mesures principalement en Europe qui est durement touchée a pris effet, mais il met en garde contre la complaisance. Il a exhorté les gens à éviter de voyager pendant la période des fêtes.
This is welcome news, but it must be interpreted with extreme caution. Gains can easily be lost, and there was still an increase in cases in most other regions of the world, and an increase in deaths. This is no time for complacency, especially with holiday season approaching in many cultures and countries.
Aux États-Unis, des milliers de personnes ont voyagé pour célébrer Thanksgiving et les autorités craignent une recrudescence de contamination de COVID-19. Aux États-Unis, toujours, le président élu Joe Biden a nommé 7 femmes dans son équipe de communication. Explication de Muriel Paradon pour RFI.
Ces femmes apportent une perspective différente à leur travail, selon Joe Biden. Elles brisent les barrières, dit même Kamala Harris, la vice-présidente américaine, qui est elle-même la première femme à occuper ce poste. La nomination d'une équipe de communication exclusivement féminine à la Maison-Blanche marque une volonté de rupture avec la précédente administration. Les sept heureuses élues ont toutes de l'expérience, comme Jen Psaki, 41 ans, choisie comme responsable de la presse. Elle avait occupé notamment le poste de directrice de la communication sous Barack Obama. Nommée comme adjointe, Karine Jean-Pierre était la directrice de campagne de Kamala Harris. Elle rassemble à elle seule beaucoup de symboles, noire, ouvertement lesbienne, immigrée, ses parents sont d'origine haïtienne. Elle déclarait en 2018 être tout ce que Donald Trump déteste. En dehors de ses postes à la communication de la Maison-Blanche, d'autres nominations importantes devraient intervenir dans les jours qui viennent. D'autres femmes de couleur, dont les noms circulent dans la presse et qui font déjà grincer des dents dans les rangs des Républicains.
Les dirigeants en exil de la région de Papouasie-Occidentale déclarent qu'ils espèrent que leur décision de former un gouvernement provisoire les rapprochera de leur objectif d'indépendance vis-à-vis de l'Indonésie. Les provinces les plus orientales de Papouasie et de Papouasie-Occidentale sont sous domination indonésienne depuis 50 ans, après avoir été cédées dans le cadre d'un accord approuvé par les Nations Unies pendant la guerre froide. Les militants de la Papouasie-Occidentale font pression pour l'indépendance, affirmant que les circonstances du scrutin qui ont conduit à l'accord étaient défectueuses, ne permettant qu'à un millier de papous tirés sur le volet de voter. Le chef de l'indépendance pour la Papouasie-Occidentale, Benny Wenda, a déclaré sur SBS News que les dirigeants exilés se sont réunis à Londres pour mettre en œuvre cette prochaine étape importante.
We are disturbed by escalating violence, including killings, in the Indonesian provinces of Papua and West Papua, and the increased risk of renewed tension and violence. UN human rights experts have repeatedly expressed serious concerns regarding the intimidation, harassment, surveillance, and criminalization of human rights defenders. We urge all parties to prevent further violence.
Les chiffres du rapport annuel de l'ONU SIDA ont révélé que les personnes vivant avec le SIDA étaient plus susceptibles de vivre dans des conditions qui rendaient difficile la distance physique, augmentant ainsi le risque de mourir du Covid-19. La directrice de l'ONU SIDA, Winnie Byanyima, a déclaré qu'à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida ce 1er décembre, que les progrès ont stagné sur l'objectif de mettre fin au sida en tant que menace pour la santé publique d'ici 2030. En mode culture, le prix Goncourt a été annoncé par visioconférence. Covid-19 oblige. Catherine Fruchon-Toussaint pour RFI revient sur le lauréat Hervé Le Tellier pour l'anomalie.
Succès de librairie, l'anomalie rallie tous les suffrages depuis sa sortie, critiques et publics. Ce n'est donc pas une surprise que les jurés du Goncourt aient choisi Hervé Le Tellier, qui à 63 ans est déjà l'auteur de plusieurs livres, mais qui ici a fait mouche avec ce roman enthousiasmant. Entre polar et science-fiction, l'écrivain imagine qu'en 2021, un avion sur la ligne Paris-New York subit une terrible tempête, mais poursuit son vol comme prévu. Sauf que 3 mois plus tard, le même avion avec les mêmes 257 passagers réapparaît dans le ciel et demande lui aussi à atterrir. Fantastique, impossible, magique, oui c'est tout cela, puisque comble de l'irréel, toutes les personnes à bord vont se retrouver face à leur double qui ont déjà repris leur existence. Ambitieux sans être prétentieux, ce roman est autant un divertissement qu'un vrai questionnement sur le champ des possibles et du tournant que peuvent prendre nos vies à cause d'une anomalie, un sujet qui pour beaucoup fait écho à l'année écoulée.
À signaler que le prix Renaudot 2020 a été décerné à Marie-Hélène Lafont pour Histoire du Fils. On passe à la météo pour ce mardi en Australie. À Perth, il fera 24 degrés. Adélaïde, 21. Melbourne, 27. Hobart, 26. Canberra, 35. Sydney, 29. Brisbane, 32. Cairns, 33. Et à Alice Springs, un maximal de 36 degrés. Un rappel des grands titres de ce mardi, les retombées se poursuivent après que la Chine ait tweeté une image modifiée représentant un soldat australien tentant de blesser un enfant afghan. Les températures devraient battre les records alors qu'une vague de chaleur continue d'affecter l'est de l'Australie. Fin du journal et merci de rester avec nous.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.